Beaver. Merci à vous, cher monsieur, d'être avec nous. Je démarre avec vous, Claude, René plutôt. La Cour suprême est au complet maintenant avec la confirmation d'Amy Coney Barrett qui remplace la défunte Ruth Bader Ginsburg. Sa confirmation aura-t-elle un impact sur les derniers jours de la campagne et même sur le scrutin?
Écoutez, on se posait la question il y a un mois, hein, avant, quand elle avait été nominée par le président Trump. Et apparemment, ce qu'on voit, ce qui s'est passé, si on suit l'actualité ces derniers jours, l'impact est relativement minime, hein, parce qu'en réalité, le résultat final était connu de tout le monde. Les démocrates n'avaient pas les moyens d'empêcher sa confirmation. Ils n'avaient pas, d'un point de vue quantitatif, d'un point de vue du nombre, ils n'en avaient pas les moyens, ni d'un point de vue procédural non plus. Il n'y avait pas de procédure qui pouvait leur permettre, sinon d'empêcher sa confirmation, au moins de la différer après l'élection. Donc la cause étant entendue, les choses se sont faites, presque envie de dire, en toute tranquillité.
Alors, Claude, avec le nombre record de votes par correspondance cette année, vous vous attendez à ce que la Cour suprême soit aussi déterminante dans l'issue de l'élection qu'en 2000, par exemple?
C'est très possible, parce que évidemment, tous les résultats ne seront pas connus probablement mercredi prochain au lendemain de l'élection, dû à un énorme nombre de votes par courrier. Tous les bulletins n'auront pas été forcément dépouillés dans la nuit de mardi 3 novembre. Et donc, ça va prendre un certain temps, ce qui pourrait permettre au président Trump d'annoncer peut-être quelque peu prématurément qu'il a gagné. Donc, il s'en suivrait toute une longue bataille juridique. N'oubliez pas, chaque candidat s'est armé d'un nombre extrêmement important d'avocats, on les compte par centaines. Il va donc y avoir cette longue bataille juridique qui pourrait donc éventuellement s'achever, se terminer à la Cour suprême. Et c'est là où le rôle de Amy Barrett, la nouvelle juge à la Cour suprême, pourrait être déterminant.
Ça allait être un peu ma question à Denise Beaver. En termes de mobilisation électorale, selon vous, à qui va profiter la confirmation d'Amy Coney Barrett? Les républicains ou les démocrates?
Une bonne question. Puisqu'il y a des gens qui pensent que ça a été trop rapide, c'était pas forcément honnête. Les autres qui pensent, qui disent, évidemment, il faut remplacer, il faut avoir un autre juge dans notre Cour suprême. Grosso modo, les républicains, si cette élection tombe vraiment dans la boue, et si c'est notre Cour suprême qui décide.
Et vous pensez qu'on pourrait aller vers un contentieux électoral qui pourrait se décider à la Cour suprême?
C'est une bonne possibilité. Si Biden gagne une grosse majorité, non. Mais s'il y a des questions, s'il y a des voix qu'on ne peut pas compter, ou des questions de je ne sais pas quoi.
Si c'est un peu serré, quoi. C'est votre analyse aussi, René?
Oui, écoutez, moi, avec notre ami Denis Beaver. La marge de victoire de Biden est très large, il est possible que même le 3 au soir, on ait les résultats, parce qu'au fond, si le nombre de votes qui doivent arriver, qui doivent être comptés plus tard par courrier, ne remettent pas en cause les résultats déjà obtenus le 3 au soir, la victoire sera proclamée, je pense qu'elle ne pourra pas être contestée. Mais si on se retrouve dans une situation où le scrutin est très serré, ou comme le disait Claude tout à l'heure, si on se retrouve dans une situation où même au niveau des, où toutes les causes, toutes les voix, tous les votes au niveau envoyés par courrier, s'ils n'ont pas encore été pris en compte, et qu'on ne se réfère qu'à ceux qu'aux personnes qui ont voté le jour même, et que Trump arrive en tête, alors là, on peut effectivement se retrouver dans une situation assez troublante et assez difficile. Donc, tout dépend un peu des scénarios.
D'accord. Je reste avec vous, René, pour parler un peu de ces derniers jours de campagne, justement. Comment est-ce que vous appréciez la stratégie des deux camps, d'un côté Biden qui mène une campagne en Géorgie et même au Texas, et Trump qui multiplie les sorties en Pennsylvanie, dans le Michigan ou encore le Wisconsin? Comment est-ce que vous appréciez un peu ce...
Il faut rappeler à vos téléspectateurs qu'en fait, comment Donald Trump a gagné en 2016? Il a gagné, il y avait ce qu'on appelait le mur bleu, le mur de démocrates, en fait, qui incluait la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. C'était l'ensemble de ce qu'on appelle les États bleus, les États qui soutiennent qui sont démocrates, on peut dire cela pour simplifier. Et il est arrivé à en gagner trois. Non seulement il a gagné ce qu'on appelle les États charnières, donc qui pouvaient aller dans un sens comme dans l'autre. À l'époque, en 2016, il y en avait 10. Il a gagné tous les 10, et en plus de ça, il a gagné trois États bleus. C'est comme ça qu'il a pu remporter l'élection au niveau du collège électoral. Donc pour lui, il a conscience que s'il veut gagner encore cette fois-ci, il faut qu'il arrive à gagner au moins un État, en Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, qui sont des États.
Mais est-ce que Biden ne devrait pas quand même se battre pour ces mêmes États, plutôt que d'aller... au Texas et en Géorgie, c'est une stratégie viable?
C'est une bonne question. C'est la question que beaucoup d'analystes se posent. Il faut croire en tout cas que Biden est assez confiant. Il pense qu'ils vont sécuriser le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie et que bon, ils peuvent se permettre d'étendre la carte électorale victorieuse, notamment avec la Géorgie, le Texas. On parle également du Nevada. Donc, et même la Caroline du Nord, certains ils pensent qu'elle est en jeu. Donc c'est un risque, mais il semblerait quand même que les derniers jours, Biden va passer beaucoup plus de temps en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et dans le Michigan.
D'accord, on pourra en reparler après les élections de toute façon. Vous pouvez réagir à cette même question, Claude, mais je veux quand même vous demander, en termes de style de campagne, on a un Trump qui multiplie les rassemblements avec des foules et Joe Biden qui limite ses sorties à cause du Covid tout en augmentant ses dépenses publicitaires. Comment est-ce que vous appréciez cela?
Oui, tout à fait, le contraste est frappant. Vous avez Trump... Qui montre une vitalité absolument extraordinaire, parce que tout de même un homme de 73 ans qui a eu le Covid, qui s'en est remis extrêmement rapidement et qui a un emploi du temps absolument épuisant. Il visite des tas d'États en une journée. Il réunit des milliers de partisans. C'est assez impressionnant de voir cette foule qui malheureusement ignore les barrières sanitaires, le masque, la distance. Et vous avez Joe Biden qui s'adresse à deux pelés et deux tondus dans un parking. Alors Biden lui a choisi la carte de la prudence et il faudra voir comment...
Ça fait pas forcément bonne télévision, mais...
Actuellement, c'est pas la meilleure solution. Alors maintenant, pour ce que disait René, c'est vrai, Biden se sent en confiance.
D'accord. Alors, Denis, le camp de Donald Trump accuse Joe Biden de rester dans son sous-sol et de manquer d'énergie. Mais d'un autre côté, les démocrates estiment que Trump fait preuve d'irresponsabilité en organisant de grands rassemblements où les mesures barrières ne sont pas toujours respectées. Quels sont les avantages et les inconvénients dans ces deux choix?
Je pense que c'est une question de stratégie. Et comme Claude vient de dire, Trump... On voit quelqu'un très fort qui a eu le Covid et maintenant il sort à gauche et à droite. C'est un mec compétent, out there, comme on dit en américain. Je pense que c'est une question de stratégie, que en dépit de Covid, je suis compétent, je suis un homme compétent, je lutte pour mon pays.
Mais est-ce qu'il ne va pas s'aliéner les voix de ceux qui estiment qu'en cette période, il faudrait peut-être respecter les mesures barrières, même si je suis d'accord que ça fait plus de la bonne télévision aussi?
Je pense qu'on a marre On entend tous les jours Covid, 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 les morts, les morts, les morts. On ne peut pas sortir, on ne peut pas aller bouffer au resto. Et j'ai l'impression que c'est une question stratégique qu'il se voit. Il veut qu'on le voit comme quelqu'un vivant.
D'accord, on va voir comment les électeurs vont réagir à ces, par rapport à ces deux choix. Nous avons des réactions quand même de téléspectateurs sur notre page Facebook, la page Facebook de VOA Afrique, Alphonse Mbouaki à Kinshasa qui dit parmi les États clés à surveiller, il y a la Floride qui dispose de 29 États électeurs, de 29 grands électeurs. Raison pour laquelle Donald Trump a voté par anticipation en Floride. Et Hassan Omar Boulalé à Djibouti, il écrit « Les élections américaines intéressent même l'Afrique, la démocratie américaine est en péril ». Voilà, donc juste ces deux réactions donc, que nous allons dire pour vous. Merci de rester fidèle à VOA Afrique. Washington, le forum revient après une courte pause.
Le 3 novembre 2020, les Américains vont désigner le 46e président des États-Unis. Donald Trump a accepté l'investiture du Parti républicain pour un second mandat. Face à lui, l'ancien vice-président démocrate Joe Biden. Dans une Amérique minée par une pandémie sans précédent, divisée par la question raciale, lequel des deux tickets aura le dernier mot ? Et vous, chers téléspectateurs africains, quels sont vos pronostics, vos attentes ? VOA Afrique est au rendez-vous. Nos services vous proposent des capsules quotidiennes pour vous éclairer sur les enjeux de ce scrutin, pour suivre de près les péripéties de cette course vers la Maison-Blanche, et cela à partir de la troisième semaine d'octobre jusqu'à l'annonce du nom du prochain président des États-Unis.
Heureux de vous retrouver pour la seconde partie de Washington Forum. Le monde a le regard tourné vers les États-Unis qui se préparent pour une élection présidentielle cruciale le 3 novembre en Afrique du Sud, pays considéré comme la démocratie la plus mature du continent africain. Les citoyens observent les élections américaines avec intérêt, notamment grâce à des journalistes chevronnés qui tentent d'expliquer les particularités et les évolutions de cette présidentielle historique. De Johannesburg, la correspondance de Anita Powell avec un récit de Dilly Dicko.
Cela fait 12 ans que le journaliste sud-africain Sherwin Brice Pease s'attelle à l'intéressante tâche d'expliquer de la mégapole new-yorkaise l'Amérique et la politique américaine aux téléspectateurs sud-africains. La pandémie et l'élection présidentielle ont fait que même pour des journalistes américains, il est devenu difficile de relayer l'information. Brice Pease explique que la difficulté est universelle.
Le déficit de vérité que nous avons connu avec cette Maison Blanche, par exemple au niveau de l'équipe médicale du président après son diagnostic du COVID-19, fait que vous n'obtenez pas nécessairement le factuel de cette Maison Blanche. Nous devons donc toujours, en quelque sorte, regarder les choses à travers un prisme. Qu'a dit le président? Est-ce réellement vrai? Cela complique la vie des journalistes ici.
Brice Pease consacre sa couverture électorale sur la course à la Maison-Blanche et sur les relations entre les États-Unis et l'Afrique. Il pense que son public préfère le candidat démocrate Joe Biden dans cette élection, en grande partie à cause du lien de Biden avec l'ancien président Barack Obama et du choix de Kamala Harris comme colistière. Le journaliste sud-africain pense également que les commentaires péjoratifs sur l'Afrique attribués au président Donald Trump l'ont rendu impopulaire sur le continent. À Johannesburg, Brooke Spector, diplomate américain à la retraite devenu écrivain, tente également d'expliquer la politique américaine au public sud-africain dans le journal Daily Maverick.
Il y a environ un mois, j'ai écrit une chronique qui exhortait les groupes de surveillance internationaux à observer les élections américaines afin qu'elles restent honnêtes, libres et équitables.
Il ne s'agit pas là d'une opinion isolée, car l'Union africaine a suggéré une mission d'observation électorale aux États-Unis. Mais cette idée ne semble pas s'être concrétisée. Cependant, de petites équipes d'États africains prévoient leur propre mission d'observation. Selon l'analyste Lise Lou Vaudran, la présidentielle américaine pourrait influencer le comportement futur des nations africaines.
Au-delà d'un changement de mentalité, il y a un changement de paradigme, dans le sens où les pays et les gouvernements africains se sentent toujours, vous savez, désavantagés, surtout de la gouvernance à la réponse au nouveau coronavirus. Ce que nous avons constaté ces 6 derniers mois, c'est qu'en fait, même les pays développés se sont retrouvés en difficulté. Leurs modèles de gouvernance sont également menacés.
Bryce Pease explique que c'est un moment important pour couvrir l'actualité américaine.
C'est un moment inhabituel pour les États-Unis et je pense que nous devons reconnaître cela. Le fait que le processus électoral de ce pays, modèle, soit remis en question fait réfléchir beaucoup de gens. Donc, je ne sais pas comment l'Amérique sera transformée à l'issue de ces élections. La question est de savoir quel genre de leadership il y aura après le 3 novembre. Je pense que ce sera déterminant pour la suite.
Quelle que soit la direction que prendront les États-Unis à la suite des élections, les observateurs africains, tout comme Sherwin Bryce Pease, continueront à regarder l'Amérique avec intérêt.
Merci beaucoup, Dili. Et je rappelle nos invités pour ce Washington Forum. À Washington, nous avons René Lec, qui est analyste politique, toujours dans la capitale américaine, Claude Porcella, ancien chef du service francophone de la Voix de l'Amérique, et à Bakersfield, en Californie, Denis Beaver. Il est avocat. Merci, monsieur, encore une fois. Alors, René, les négociations difficiles qu'on a vues pour un plan de relance économique montrent que le pays est plus polarisé que jamais. Vous pensez que cela va influer sur les courses au Sénat et à la Chambre, et même sur les élections de façon générale?
Oui, il y a des chances, d'après certaines analyses, certaines interprétations de certains sondages, ça semble avoir une influence dans des États où on ne pouvait même pas s'y attendre. On a parlé de la Géorgie tout à l'heure, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, l'Arizona. À un moment même, Kentucky, bon là on en parle moins, j'ai l'impression que les choses se sont stabilisées en faveur du leader républicain du Sénat. Donc, j'ai l'impression qu'effectivement, le fait que les républicains ne soient pas arrivés à trouver un accord avec les démocrates alors qu'ils ont la majorité au Sénat pour pouvoir réinjecter un peu plus d'argent, les démocrates demandent à peu près 2 milliards de dollars, les républicains en sont à 1 milliard, quoi que la Maison-Blanche avait proposé un compromis autour de 1,7, mais il semblerait que les républicains, la majorité des républicains au Sénat ne soient pas prêts à passer une telle loi. Donc, ça aurait permis, au fond, d'augmenter les revenus des chômeurs, des gens sans emploi qui ont perdu leur emploi à cause du Covid, et également d'injecter un peu plus d'argent au niveau des small business, des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises, et pouvoir éviter un écroulement, un effondrement de l'économie.
Alors, oui, absolument. Claude, il y a quand même des électeurs qui ne préfèrent pas qu'un seul parti contrôle la présidence et le Congrès en même temps, certainement pour préserver un certain équilibre et pousser les politiciens à négocier. Pensez-vous qu'on verra beaucoup d'électeurs de ce genre cette année, vu les blocages à Washington?
J'en suis pas totalement convaincu parce que cette élection, d'abord il faut rappeler le nombre incroyable d'Américains qui ont déjà voté, presque 70 000 millions. Donc les gens ont déjà décidé et il semble que, c'est d'ailleurs souvent le cas dans une élection, ce soit un référendum sur les personnalités. Et si c'est un référendum sur la présidence Trump, il a peu de chances de l'emporter. Si d'autres facteurs jouent, alors là...
Et vous, Denis, pourquoi est-ce qu'il est difficile aujourd'hui de trouver un consensus? Est-ce que c'est à cause de ces élections, c'est le contexte électoral, ou bien vous pensez que ça risque d'être la nouvelle réalité et la nouvelle donne?
Une nouvelle réalité. Je pense que ça a commencé pendant l'ère d'Obama. Vraiment, ça ne bougeait pas, le gouvernement. Les gens étaient congelés. Pas de compromis. Très peu de discussions. Vraiment une guerre. Hein. Les partis, vraiment, une sorte de guerre. Et je pense que ça risque de continuer. Mais si les démocrates gagnent partout, alors ça va changer des choses.
Vous parlez de l'ère Obama. Est-ce que avant, quand même, on pouvait avoir un président d'un parti et un congrès contrôlé par un autre parti, et ça n'empêchait pas de discuter?
Oui. Mais avec Obama, le congrès et le Sénat, ils étaient tellement congelés. Ils ne pouvaient pas discuter. Impossible de compromettre. Une vraie guerre, une guerre contre l'administration Obama, selon ce que je voyais.
Et René, sur ce manque de compromis, vous pouvez peut-être nous dire un mot, mais je voulais surtout aussi que vous nous parliez un peu de ce que vous voyez comme les grandes courses pour les sénatoriales et à la Chambre.
Oui, écoutez, je suis tout à fait de l'avis de Denis, hein, ça fait quand même 12 ans que ça dure, hein. Je vous rappelle que quand Obama a été élu, Mitch McConnell, le sénateur leader du Sénat, aussi leader bien entendu des Républicains qui contrôlent le Sénat, avait dit que sa tâche première, c'était de faire d'Obama un président à un seul mandat. Et c'est à ce moment-là où vraiment la fracture a été marquée. Et bon, et depuis, effectivement. Bien l'expression de Denis, il dit que tout est congelé, rien ne bouge, et le compromis, il est passé en perte et profit, malheureusement, il n'y en a pratiquement plus à Washington.
Mais Claude, est-ce que ce n'est pas mauvais quand même pour la démocratie d'avoir un seul parti contrôler toutes les institutions?
Oui, c'est vrai, mais c'est un gros avantage pour celui qui est au pouvoir. Évidemment, il peut faire tout ce qu'il veut. Comme Denis et René l'ont souligné, quand vous avez un parti qui est au pouvoir, dans le cas actuel, Donald Trump est au pouvoir, mais il a la Chambre qui est à majorité démocrate et le Sénat républicain. Et depuis 4 ans, c'est la paralysie totale, rien n'avance. On avait déjà eu ça sous Obama quand il y avait cette alternance. Et donc, je ne sais pas quelle est la situation idéale pour vous dire le vrai. D'une façon générale, les Américains aiment qu'il y ait cet équilibre.
Certains pensent que c'est peut-être parce qu'on n'a plus John McCain ou Joe Lieberman. C'est votre avis aussi? Je pose la question à tous les trois.
Tout à fait d'accord. Même Biden il pouvait travailler avec tout le monde, hein, avec les deux côtés, les deux partis. Mais oui, il nous manque quelqu'un ou des gens qui sont malléables, qui sont capables vraiment de négocier et de travailler pour le bien du pays. Et maintenant, ce n'est pas le cas.
René?
Il est intéressant de regarder quels sont les. Quel est le message de fin de course des différents candidats? Eh bien, justement, comme le soulignait tout de suite Denis, Joe Biden, il termine sa campagne en insistant spécialement sur ce point-là, qu'il va être un président de tous les Américains, qu'il va être le président des Républicains, des présidents de gens qui ont voté contre lui, des gens qui ne l'aiment pas, qui n'aiment pas sa politique, mais qu'il va être un président consensuel à tel que, bon... on le concevait à l'époque avant l'arrivée d'Obama au pouvoir.
Et Claude, Joe Biden reconnaît lui-même, mais il reconnaît quand même que certains lui ont dit que ce n'est pas forcément un message qui vend aujourd'hui. Donc il y a une nouvelle réalité, non?
Oui, non, je suis d'accord avec Denis et René. Les Américains souhaitent que... quels que soient les partis qui ont le pouvoir, négocient. Ça, c'est un souhait de tout le temps. Et comme vous le disiez, il n'y a plus de républicains, ou très peu, qui aient osé s'opposer à la politique de Donald Trump. Et les rares qui l'ont fait, ils sont partis.
D'accord. En tout cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement. Espérons qu'on aura quelque chose de consistant pour discuter, faire le suivi de cette émission d'aujourd'hui. Malheureusement, nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Je vous remercie d'être avec nous. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet et sur la page Facebook de VOA Afrique.